Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1.
Bonjour, aujourd'hui je reçois Quentin Chaming, chargé de biodiversité à FNE 1, pour parler des pollinisateurs. Bonjour Quentin.
Et bonjour Bernadette.
Alors, quels sont les insectes pollinisateurs? Qu'est-ce qu'on appelle? Tous les insectes ne sont pas pollinisateurs. Quels sont-ils, ces pollinisateurs?
Eh bien, en fait, on a plusieurs espèces qui... Enfin, plusieurs espèces, oui, évidemment, mais aussi plusieurs grands ordres d'insectes qui peuvent être pollinisateurs. Les principaux, en général, on va dire que c'est les hyménoptères, donc c'est les abeilles, les guêpes, les fourmis font partie des hyménoptères aussi, donc tous ne sont pas pollinisateurs, mais une partie le sont. Les coléoptères, pareil, une partie des coléoptères sont des pollinisateurs. Dans les coléoptères, on a ce qu'on appelle les scarabées, les cétoines, les coccinelles, tous ces insectes qui ont un peu des carapaces autour d'eux. C'est la première paire d'ailes qui est transformée en élytre, donc qui fait un peu un rôle de protection. Et les diptères, certains connaissent peut-être les mouches déguisées en abeilles, les syrphes, donc qui sont à la fois des régulateurs de pucerons à l'état larvaire. Pour certaines espèces, certains autres qui filtrent, qui sont aquatiques, les larves, elles filtrent l'eau. Et à l'état adulte, vont venir dans les fleurs pour polliniser, donc transporter du pollen. Et ce qu'on appelle insecte pollinisateur, c'est vraiment ceux qui vont de fleur en fleur, alors soit pour se nourrir, en général ils se nourrissent avec le nectar, ou ils vont aussi prélever du pollen pour leur progéniture, donc c'est le cas des abeilles par exemple. Ils vont transporter le pollen de fleur en fleur et permettre la reproduction des fleurs.
D'accord. Alors aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser donc aux abeilles sauvages. Hein, donc sauvages, pas les abeilles domestiques, puisque elles, c'est plus de l'agriculture, de l'élevage.
Oui, c'est ça. Sorte.
Donc on va plutôt s'intéresser aux abeilles sauvages. Et donc pourquoi s'intéresser aux abeilles sauvages? Tu t'intéresses entre autres aux abeilles?
Eh ben, les abeilles sauvages, en fait, c'est un groupe qui est très peu connu. Alors, on entend beaucoup dans beaucoup de discours, si l'abeille disparaît, on disparaît en X années, j'ai plus exactement en tête. Et souvent, les gens, quand on parle de ça, pensent, oh là là, mais c'est terrible, il faut qu'on mette des ruches partout. Sauf que l'abeille de ruche, c'est une seule espèce parmi les nombreuses espèces qu'on va avoir en France, en Europe et dans le monde. Donc il n'y a qu'une seule espèce qui fait du miel. À partir du moment où l'abeille fait du miel, ce n'est pas une abeille sauvage. C'est une abeille de ruche, donc une abeille domestique, et donc qui est installée par les humains et est aidée par les humains. Les abeilles sauvages, elles sont hyper diversifiées. On a quasiment 1000 espèces en France. Elles sont très spécialisées. Il va y avoir des espèces qui vont être sur uniquement un groupe de fleurs, d'autres espèces qui vont nicher dans la terre, d'autres espèces qui vont nicher dans des cavités. Enfin voilà, on a vraiment une diversité assez énorme. Donc avec autant d'espèces, on imagine bien plein de spécialisations, plein d'espèces généralistes aussi, un peu comme l'abeille de ruche. Plein d'espèces. Et toutes ces espèces-là, en France, on ne les connaît pas trop. On ne sait pas trop où elles sont, on ne sait pas trop... certaines, on découvre des nouvelles espèces chaque année. C'est vraiment un groupe méconnu et sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire.
Et donc, si l'on prend le cas des abeilles sauvages, combien est-ce qu'on a pu en recenser? Est-ce que tu as des chiffres pour l'Europe ou la France?
Ouais, alors en Europe, on a un peu plus de 2000 espèces. Un peu plus de 400 espèces qui sont endémiques d'Europe, c'est-à-dire qu'on les trouve que en Europe. Donc c'est assez fou. Hein. Pour comparaison, les papillons de jour, on a 450 espèces en France. Je ne saurais pas dire en Europe, pour le coup, je n'ai pas révisé ces chiffres-là. En France, en 1995, il y avait un premier état des lieux sur les espèces présentes. Et ils avaient recensé 865 espèces. En 2025, donc l'année dernière, est sortie une actualisation de la liste des espèces et on en est à 983 avec des changements un peu, certaines espèces qui avaient été mentionnées en 95 qui ont été retirées suite à des réidentifications ou à des clarifications taxonomiques. Donc en gros, une espèce qui en fait séparée en deux espèces parce qu'on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, ou des descriptions de nouvelles espèces. Il y a eu des nouvelles espèces décrites pour la France, quand même, et des premières mentions, c'est-à-dire des espèces qui n'étaient pas, qui n'étaient pas connues de France, qui ont été trouvées au fur et à mesure. Et il faut savoir que cette liste d'espèces, elle continue de grandir. C'est-à-dire que là, j'étais aux rencontres quand ils ont présenté cette liste d'espèces en 2025. Et dans la même journée, on avait la présentation de la liste d'espèces. Et deux présentations après, il y avait quelqu'un qui présentait une nouvelle espèce pour la France. Donc c'est vraiment, c'est en constante évolution. Et comme je dis, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et on est...
On ne connaît pas tout.
Voilà, on ne connaît pas tout. On est loin de tout connaître.
On a encore de la marge, quoi.
On peut encore
se lancer dans l'observation.
C'est ça, c'est un peu l'aventure.
Et donc, ces abeilles, est-ce qu'elles vivent... dans quelle zone elles vivent, par exemple, dans la France? Est-ce qu'on en trouve plus au sud, au nord, ou est-ce que c'est homogène? Ou comme le nord, c'est plus frais. Et il me semble que les abeilles, elles ont besoin quand même... Elles sortent quand il fait une certaine température. Donc, est-ce qu'on en trouve pareil au nord, au sud? Comment ça se répartit
Eh bien, en fait, on va avoir... Alors, la plus grande diversité en France pour quasiment toutes les espèces, on va dire, même en plantes, même pour beaucoup d'autres groupes, c'est le sud. Autour du pourtour méditerranéen, on a vraiment une diversité qui est très forte. Les abeilles, si on regarde les abeilles entières, hein, donc toutes les familles d'abeilles qu'on a en France et toutes les espèces, elles sont quand même plutôt affiliées au chaud. C'est des espèces qui vont quand même préférer la chaleur, et donc c'est là qu'on a la plus grosse diversité. Il y a certains groupes où c'est pas trop vrai, par exemple les bourdons, qui sont des grosses abeilles à fourrure, hein. Les bourdons sont des abeilles, mais toutes les abeilles ne sont pas des bourdons. et du coup, eux, ils vont préférer la montagne, la fraîcheur, donc on va trouver la plus grosse diversité dans les Alpes, dans ces endroits-là. Après, globalement, pour le territoire dans lequel on est, donc Aura, ce qui est bien, c'est qu'on a une variété de territoires très forte, et du coup, on va avoir beaucoup de diversité d'espèces présentes.
Et donc, si on parle donc des abeilles sauvages, c'est qu'il y a des menaces qui pèsent sur les pollinisateurs. Et combien est-ce qu'il y a à peu près d'espèces qui sont menacées?
Alors, c'est un peu compliqué à dire parce que on a des choses qui existent, qu'on est en train de créer en ce moment. En France... je pourrais pas te donner les chiffres tout de suite, il va falloir attendre fin de l'année.
Ouais, oui, il va falloir au niveau peut-être européen, si tu as
en gros. En France, en fait, il va falloir attendre fin 2026. On a la liste rouge qui va sortir, la liste rouge française.
C'est quoi la liste rouge?
La liste rouge, en fait, c'est un outil qui nous permet de... Ce qu'ils avaient utilisé comme expression, c'est de prendre le pouls sur les abeilles sauvages, c'est de savoir un état des lieux à un instant T pour voir comment vont les espèces. Et c'est un outil qui a été créé il y a plusieurs années, peut-être pour les plus vieux dans nos auditeurs, c'était la WWF qui avait fait une grande campagne. On voyait le panda avec marqué un petit sigle à côté, je ne sais plus si c'était VU ou en danger critique ou tout ça. C'est toutes les petites cases rouges avec marqué deux petites lettres comme ça pour dire CR, c'est en danger critique, éteint dans la nature, éteint, menacé, vulnérable, quasi menacé, etc., etc. Et donc c'est vraiment un outil qui nous permet un état des lieux à un instant T. Et du coup, à partir de ça, de pouvoir lancer d'autres dynamiques, se dire « Ok, on a tant d'espèces menacées sur le territoire, comment on fait pour les protéger? Est-ce qu'on met une liste d'espèces protégées? Est-ce qu'on met une liste d'espèces qu'on dit caractéristiques ZNIEF, donc zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique, floristique ?» Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire après à partir de ça? Et ça nous donne vraiment la connaissance, parce que sans connaître, on ne peut pas protéger. Et donc en Europe, la dernière liste rouge date de 2026. Ce qu'on va appeler menacé dans une liste rouge, c'est les espèces qui sont en danger critique, en danger ou vulnérable. Donc CR, EN et VU dans la liste. À la dernière liste rouge, on avait 8,9% d'espèces menacées, donc sur les 2000 espèces en Europe, en sachant quand même qu'on a 14% des espèces dont on ne connaît pas assez la répartition pour les classer. Donc il y a de grandes chances que celles-ci aussi soient menacées, et qu'on ne les connaisse pas assez, et qu'on ne puisse pas leur donner un statut de conservation.
Et donc, quelles sont elles sont menacées? Elles sont menacées par quoi, alors? C'est quoi les principales menaces?
Dans la liste rouge, justement, ils ont évalué par ordre d'importance quelles étaient les menaces. Et pour les abeilles sauvages, les menaces les plus prégnantes, donc les cinq plus fortes, ça va être l'intensification agricole, pardon, donc avec l'utilisation de pesticides, d'engrais, la conversion des paysages diversifiés, donc ce qui avant était du bocage avec des prairies, avec beaucoup d'espèces de fleurs différentes. Elles ont besoin d'une diversité comme ça. Plus on a une diversité de fleurs, plus on aura une diversité d'abeilles, qui passent du coup en monoculture, donc ça soit sur des monocultures d'herbes, hein, ça existe aussi pour faire plus de rendement en herbe, ou en monoculture céréale, autre chose. Donc ça dégrade aussi les sols, ça va dégrader tout ça. Donc les abeilles ont vraiment besoin de ces sols et de ces fleurs et de cette diversité. Le changement climatique est aussi un facteur assez fort, avec le changement des régimes de pluie, le changement de la chaleur, donc un dérèglement en fait, entre certaines espèces qui sont spécialisés sur une plante. Bah, si la plante fleurit plus tôt et que l'espèce n'est pas encore sortie, bah, elle va rater sa plante et elle peut au fur et à mesure se décaler et pas évoluer au même rythme. Ça rejoint un peu le premier point aussi, mais la perte et la fragmentation d'habitat, donc à la fois du côté agricole, donc le passage, tout ça, mais aussi le fait que ben, on bétonise de plus en plus et du coup on a moins de corridors, d'endroits où les espèces peuvent passer entre leurs habitats. Les espèces invasives et les pathogènes qui peuvent être emmenés. Alors les pathogènes, ça peut être induit par l'abeille de ruche notamment, mais aussi par des espèces, voilà, quand on fait des hôtels insectes hyper grands et qu'on a plein d'individus au même endroit, bah, ça favorise les maladies et les parasites. Et puis la dernière cause, c'est la pollution, à la fois encore une fois d'origine agricole, mais aussi d'origine, de toute origine possible, donc par l'industrie, par nous, quand on vit aussi. Voilà. C'est vraiment les cinq principales menaces pour les abeilles sauvages.
Et donc, si tu avais des recommandations à faire pour la protection des abeilles, qu'est-ce que ce seraient les principales? Alors, d'après ce que je comprends, pas trop d'hôtels à insectes.
C'est ça.
on revient sur ce...
On a beaucoup de fausses bonnes idées, souvent. Donc, l'hôtel à insectes, le gros hôtel à insectes super au milieu d'une pelouse tondue, bah, ça ne sert pas à grand-chose.
C'est un hôtel sans restaurant.
Voilà, c'est un hôtel sans restaurant. Et puis, en plus de ça, vraiment, on favorise, on met tout le monde au même endroit au même moment. Et du coup, ça favorise vraiment les parasites et les maladies. Le plus important, c'est d'essayer de diversifier son jardin avec des fleurs locales. Donc pareil, les fleurs exotiques, il faut vraiment bien faire attention à ça parce que ben, déjà, il y a des fleurs qui sont des pièges pour certains pollinisateurs. On se retrouve avec des papillons pendus par la langue, enfin par la trompe, à certaines fleurs, donc les Dipladenia notamment. On a des fleurs qui n'ont pas les mêmes apports nutritifs et on a surtout, comme je le disais, des pollinisateurs qui ont coévolué toute leur vie, toute la vie de leurs ancêtres même, depuis des centaines d'années, avec des fleurs locales, et donc qui sont vraiment habitués à évoluer ensemble, et donc c'est vraiment ça leur vrai besoin. Donc ça, laisser un peu de végétal local, pour ne pas citer la marque, mais la citer quand même, et laisser un peu d'espace à la nature dans son jardin, c'est vraiment le mieux. Et des fois, c'est en faisant le moins possible, en laissant un peu pousser, en tondant qu'une seule fois par an certains espaces où on ne va pas, en recréant un peu des corridors de haies, encore une fois, avec des essences locales, en laissant des petits tas de sol à nu, des tas de terre non tassée. 70% des abeilles sauvages sont terricoles, c'est-à-dire qu'elles nichent dans la terre. Et puis après, si vous tenez absolument à faire quelque chose, vous pouvez faire des tout petits bouts d'hôtels à insectes, donc des petits bouts, des petits fagots de rosiers, des petits fagots de bambou pour voir les petites bêtes se mettre dedans. C'est aussi intéressant d'un point de vue pédagogique avec des enfants, par exemple.
Oui, surtout que ce sont des abeilles qui ne vivent pas forcément comme les abeilles de ruche en colonie, en grande colonie.
Dans les abeilles sauvages, il n'y a qu'un seul groupe qui fait des vraies colonies comme l'abeille de ruche, c'est les bourdons. Une partie des bourdons d'ailleurs, parce qu'il y a des bourdons qui sont parasites aussi, d'autres bourdons. Mais voilà, c'est vraiment les seuls qui vont faire des vraies, vraies colonies avec une reine, des ouvrières qui vont chercher du pollen pour nourrir le couvain, etc. Sinon, toutes les autres sont solitaires ou grégaires. On a de temps en temps des bourgades de certaines abeilles qui nichent au même endroit. Mais du coup, la plupart sont solitaires quand même.
D'accord. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous dire rapidement, tout à l'heure, on a parlé de la liste rouge de l'Atlas des abeilles sauvages. Est-ce que c'est possible, tout citoyen lambda peut aider justement à cet établissement de la liste rouge?
Ouais. Alors, nous, la liste rouge, donc là, on est en pleine période de récolte des données pour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la liste rouge française va sortir en fin 2026, mais là, elle est terminée et ils attendent juste de finir les publications, tout ça. À horizon 2027, la liste rouge régionale va sortir. Donc pour l'instant, on récolte les données. N'importe qui peut nous envoyer des données. Alors, il faut que ces données soient validées et c'est pas une mince affaire. Il y a certaines espèces qui sont très faciles à reconnaître, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Pour la plupart, on est obligé de passer sous la loupe binoculaire, donc de récolter les individus et de les observer a posteriori, un peu comme dans les musées. D'autres espèces, nous, on fait quelques enquêtes. On a des enquêtes sur certaines fleurs. On a une enquête sur les saules, donc les arbres qui fleurissent très tôt dans la saison. On a quelques espèces spécialisées sur les saules. On a une petite enquête en cours sur les brassicacées, c'est la famille des choux, où il y a quelques espèces qui sont spécialisées sur les brassicacées. Et en fait, on va essayer de publier quelques enquêtes comme ça avec Arthropologia, donc qui coordonne la liste rouge, et voilà, de faire un peu ces petites enquêtes-là. Et du coup, vous pouvez me les envoyer à mon adresse quentin.chaming@fne-aura.org.
Ou vous adressez directement à FNE. Si...
Ou directement voilà. À FNE.
Merci Quentin. Alors, si vous souhaitez nous rencontrer et mieux nous connaître, n'hésitez pas à nous rejoindre le troisième jeudi de chaque mois lors de l'apéro du hérisson. Le prochain aura lieu le jeudi 16 juin à partir de 18h dans nos locaux au 44 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse. Retrouvez également toutes nos actualités sur notre site internet fne-1ain.org. Au revoir et à bientôt.
À bientôt.
Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1.